Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous sommes réunis en cette église pour porter le souvenir de tous ceux qui sont morts pour la France, nous voilà dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce pour le sacrifice de leur vie, dans l'action de grâce pour deux vertus que notre monde ne connaît plus et qui firent la gloire de la victoire, l'humilité du soldat qui répond et l'obéissance de celui qui offre sa vie par amour pour tous ceux de sa patrie. Oui, l'humilité et l'obéissance qui sont comme les deux grandes vertus de la bienheureuse Vierge Marie qui ont été celles de ceux qui ont répondu à l'appel des drapeaux, de ceux qui ont répondu à l'appel de la France. Il y avait eu l'immense humiliation que nous n'avons que trop oubliée, pensant que seulement l'assassinat d'un archiduc était à l'origine de la première guerre. Mais souvenons-nous que la France fut envahie par les Allemands et l'Empire allemand proclamé en un lieu si important pour notre terre et si humiliant pour nous, proclamation de l'Empire allemand dans la galerie des glaces du grand roi. On nous avait volé l'Alsace et la Lorraine. Quelle ville de France n'a pas une rue de Metz, une rue de Strasbourg, un boulevard Alsace-Lorraine? Pensons à la place de la Concorde qui porte symboliquement le témoignage de ces terres que l'on nous avait volées. Et voilà qu'a retenti la Première Guerre mondiale et que beaucoup de nos familles et de nos aïeux ont vécu cette période dure avec courage et foi. Nous ne pouvons que rendre grâce pour le sang qu'ils ont versé pour nous. Et pour nous, membres de l'Église, ce sacrifice, ce sang versé nous rappelle celui que notre Seigneur Jésus le Christ, dans sa passion, a versé, non pas pour libérer une terre, mais pour nous obtenir la gloire de l'autre monde. Le Seigneur, en offrant sa vie, en versant le sang par amour pour nous, voilà, eh bien, qu'il met un terme au mystère de la mort et réouvre les portes de la vie éternelle. Eh bien, voilà que nos héros, ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, ont permis également à notre terre, eh bien, de retrouver sa liberté. De même que le sang versé par notre Seigneur Jésus le Christ nous engage chacun en notre vie quotidienne, en notre foi. De même, le sang versé par ces jeunes hommes, tout comme le sacrifice de ces femmes qui ont continué à faire tourner la ferme et les affaires de notre pays, nous engage aujourd'hui. Pourtant, vous le voyez comme moi, avec désarroi et stupeur, une France que l'on ne reconnaît plus, où on se permet de manquer de respect aux autorités de gendarmerie et de police quand on ne caillasse pas nos pompiers. Pourtant, le sang de ces jeunes hommes versés nous engage et doit nous faire réagir. Qu'avons-nous fait du sacrifice de leur vie? Que laissons-nous faire en raison du sacrifice de leur vie, de ces jeunes hommes et de toutes ces familles qui ont porté ce temps de guerre pour qu'advienne la paix? Une paix aussitôt signée que le pape Benoît XV a dénoncé, les fondements de la paix ne sont pas suffisamment sûrs, et voilà que nous allons retomber dans un conflit mondial. Et voilà que le pape Benoît XV, le pape de la grande encyclique sur la paix, avait malheureusement bien raison. Oui, quelle est donc l'origine de la guerre? Toujours la même, le péché, l'orgueil. Et cette dévastation, cette soif de puissance. Voilà pourquoi les vertus fondamentales de la paix sont l'humilité est l'obéissance. L'obéissance reconnaissante à une autorité qui n'est pas là pour exercer une quelconque domination, mais qui est là pour être au service du bien commun. La figure que nous contemplons en ce jour, celle de Saint Martin, est celle d'une des grandes figures qui a façonné la France. Un siècle avant le baptême de notre roi Clovis et celui-là même de la reine Clotilde, que nous avons à gauche de notre maître-autel, voilà qu'un soldat hongrois, qui est né aux alentours de l'an 313-316, est venu de sa Pannonie jusqu'en terre de France. Martin, le jeune soldat, avait sa famille engagée dans l'Empire romain et déjà enfant, dans le secret, il allait fréquenter assidûment les communautés chrétiennes, lui qui délaissait le culte idolâtrique des idoles et de l'empereur pour y préférer le Dieu d'amour et de vérité, notre Seigneur Jésus le Christ. Sa famille, au service de l'Empire, ne voulait pas que Martin se convertisse. Ce n'est que lorsque celui-ci fut adulte qu'il ait repris lui-même cette profession de soldat, arrivé chez nous, en notre terre de France, dont il sera un des grands apôtres, voilà qu'il rentre un jour dans la ville d'Amiens, alors qu'il faisait bien froid. Nous connaissons chacun cet épisode si important de notre histoire de France. Non pas une victoire éclatante, mais un acte de charité qui fut monté en exemple. Martin, le soldat romain, portait sa cape, une cape qui appartient à l'Empire romain. Il s'agit d'un uniforme, mais que chaque soldat pouvait faire doubler. Martin avait fait doubler sa cape, la cape qui lui sert à la fois pour dormir, pour se couvrir, comme pour se protéger des éléments. Alors que nous avons entendu dans l'Évangile le Seigneur dire « J'étais nu, vous m'avez vêtu », voilà que Martin, entrant dans la ville d'Amiens, voit ce pauvre qui meurt de froid. Se saisissant de son épée, voilà qu'il arrache la doublure de son manteau, de sa cape, et en couvre le pauvre. Voilà un des actes fondateurs de notre terre de France. Celui qui est capable de se dévêtir pour couvrir la nudité et le froid. Et quelques heures après cet acte tout simple qui aurait pu rester dans l'anonymat le plus complet, voilà que le Christ apparaît à Saint-Martin, vêtu de cette même cape. La première famille de France ne s'est pas appelée Capet par hasard. Elle s'est appelée Capet en raison de la cape de Saint-Martin. De même, lorsque celui-ci quitte l'Empire et devint le premier fondateur d'un couvent en notre Occident, à Ligugé, aujourd'hui abbaye appelée Saint-Martin de Ligugé, voilà que Martin s'efface dans la prière, avec lui des hommes qui vivent cette vie contemplative, ne vivant que pour Dieu et manifestant cet amour par l'accueil du prochain et de ces pauvretés dans lesquelles ils ont toujours reconnu le Seigneur souffrant, le Seigneur crucifié, le Seigneur affamé, le Seigneur assoiffé. Martin s'est rapproché du grand Hilaire de Poitiers et c'est sous sa houlette qu'il fonda cette vie monastique jusqu'à ce que, à Tours, les gens, portant tellement haut la vie de Martin, décidèrent d'en faire leur évêque. Contraint et forcé, Martin reçut et le sacerdoce et l'épiscopat et se révéla être pour la ville de Tours une lumière éclatante permettant de transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile. Le temps n'était plus au paganisme, le temps n'était plus au chacun pour soi, le temps était venu de vivre les fondements de la chrétienté, l'amour de Dieu manifesté dans l'amour du prochain. Aussitôt que Martin s'est attelé à instaurer l'Église en la ville de Tours, voilà qu'il fut l'apôtre infatigable de nos campagnes. Lorsqu'il mourut, voilà que la maison que l'on avait dressé pour abriter et le morceau de cape de Saint-Martin et son tombeau a donné lieu à un nouveau mot, de la cape de Saint-Martin, de cette maison où était renfermée sa cape, voilà l'origine du mot capella, la chapelle. Toute chapelle porte mystérieusement le nom de cette cape de Saint-Martin, où Martin le miséricordieux, en couvrant le pauvre, a revêtu le Christ. Alors nous comprenons l'actualité de l'évangile vécu par Saint-Martin. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu. Vous m'avez donné à manger, à boire, vous m'avez vêtu. Chaque fois que nous le faisons au plus petit d'entre nous, c'est au Christ que nous le faisons, que ce soit en nos maisons de retraite, que ce soit en nos villages, en nos quartiers, en nos familles. N'ayons de cesse de reconnaître le Christ dans les pauvretés du quotidien. C'est ainsi que nous porterons véritablement honneur à ceux qui ont versé leur sang pour nous, à ceux qui ont versé leur sang et qui sont morts pour la France. Puisse Saint-Martin, la bienheureuse Vierge Marie et tous les saints de notre terre venir à notre secours en ces temps troublés et difficiles. Ainsi soit-il.